Bien, bonsoir, bienvenue donc sur MyLeava. On est sur MyLeava qui est le site de e-formation. On est dans la série de cours sur le Shalom Bayit. Et on s'intéresse maintenant au respect à l'argent. C'est le troisième cours consacré à ce sujet-là. Donc le respect à l'argent. Mais là maintenant, on va rentrer dans un domaine un petit peu particulier que je n'ai pas abordé jusqu'à présent. Mais avant de vous dire de quoi il s'agit, je voudrais opérer une petite distinction. Vous savez que dans le domaine de ce qu'on appelle communément la psychologie, vous avez, disons, deux grandes écoles. Vous avez l'école de la psychanalyse, qui en général s'intéresse à des choses très profondes, à des couches très profondes de l'individu, et qui en général s'intéresse beaucoup à l'intention de l'action, à ce qui finalement fait le fond du comportement, c'est-à-dire quelle est l'intention, quelle est la structure profonde, à quelle structure profonde de l'individu peut obéir tel ou tel comportement. Et en général, la cure analytique est une cure qui prend du temps qui est censée mettre l'individu donc en face de lui-même de la manière la plus complète qui soit. Vous avez une autre école qui est l'école dite de la psychologie. Alors, en général, la psychologie s'intéresse plutôt au fonctionnement, mais plutôt dans le domaine du comportement. Et donc la psychologie, en règle générale, essaie de régler des problèmes de fonctionnement, de dysfonctionnement plus exactement, et va s'intéresser de manière plus exhaustive, de manière plus suivie, de manière plus profonde, au comportement. Alors, en général, ces deux écoles disent, pour la psychanalyse par exemple, on va s'intéresser à un changement de fond, mais qui prend du temps. La psychologie dit, on va aussi s'intéresser à un changement de fond, mais on va passer par le comportement, on va passer par le fonctionnement. Nous, on a une obligation qui s'appelle Chochma Bagoim Ta'amin. C'est-à-dire qu'il y a de la Chochma, il y a de la sagesse en tout. Est-ce que cette sagesse représente pour autant un tout? Certainement pas. Et c'est la raison pour laquelle nos sages nous ont donné le moussard. Le moussard, c'est l'étude de notre propre comportement, l'étude de notre propre fonctionnement, mais aussi l'étude des causes profondes de notre comportement. Et c'est la raison pour laquelle, dans ce domaine du respect de l'argent, le respect entre les époux, le respect de soi et l'implication que ça peut avoir dans le domaine de la parnassa, de la subsistance, il nous faut maintenant aller un petit peu plus loin en utilisant précisément les ressorts du moussard. Mais on va utiliser ce qu'on appelle la partie moussard de la Kabbalah. Vous savez que dans la Kabbale, il y a les noms divins, ces choses qui sont extrêmement profondes et qui sont réservées à des gens qui ont beaucoup travaillé sur eux-mêmes, qui ne se mettent pas en colère, qui sont des gens très érudits, qui connaissent le Shulchan Aruch, qui connaissent le Talmud. Donc c'est un groupe de gens très particulier. Mais il y a la partie moussard de la Kabbalah qui en quelque sorte nous donne une vision un petit peu plus profonde de ce qu'est notre âme. Alors, il faut savoir que dans notre Nefesh Ayesodi, dans la partie vitale de notre âme, qui s'appelle le Nefesh, il y a quatre forces. Il y a la force du Hesh, on l'a évoqué dans d'autres cours, qui est la force du feu, qui est la force qui gère finalement l'ego dans sa partie négative, dans son acception négative, et puis la partie anava, la capacité de modestie, la capacité à laisser de la place aux autres, à vivre sans jamais rien prendre aux autres, mais au contraire en apportant aux autres. Il y a une autre force qui s'appelle Ruach qui est la parole, le souffle. Alors, il y a deux sortes de paroles. Il y a la parole négative, qui est la parole destructrice, la malédiction, le lachonara, la médisance, etc. Et puis, il y a la parole qui construit. Alors, il y a le silence aussi. Et puis, il y a les bénédictions, il y a les encouragements, etc. Il y a une troisième force qui s'appelle Afar. Afar, c'est la poussière. La poussière, c'est quoi? C'est ce qui a trait, finalement, à la mort, à la dépression. Et d'un autre côté, dans ce versus positif, à la bonne utilisation du monde dans lequel nous vivons, de notre champ pulsionnel, et qui est d'avoir de la simcha, la joie. On dit par exemple, Ifdou et Hashem Besimcha, servez Hashem Besimcha dans la joie. Quand vous changez l'ordre des lettres, ça fait Marshava. Marshava, ça veut dire faites des comptes. Quelqu'un qui compte et qui comprend, qui essaie de comprendre ce qu'est sa vie et les éléments qui constituent sa vie, il peut avoir une certaine Simcha parce qu'il peut toujours trouver de quoi se réjouir. Et puis il y a une quatrième force qui s'appelle Mayim. Mayim, c'est tout ce qui gère les plaisirs. Alors dans le versus négatif, c'est l'incapacité à gérer ses pulsions, incapacité à gérer ses plaisirs. Dans le versus positif, c'est la capacité à se retenir, à se gérer. C'est à cette partie que je voudrais m'intéresser aujourd'hui. Il y a un lien très profond entre la parnassa, l'argent, le bien matériel et la gestion de ce qu'on appellerait en français le champ pulsionnel. Comment un individu gère ses pulsions? il y a un lien très profond entre cette force qui s'appelle Maïm, l'eau, et qui représente finalement l'attachement au désir, l'attachement au plaisir, et la satisfaction du plaisir, et finalement la relation que l'individu va entretenir avec ce qu'il possède. Alors, c'est tout à fait fondamental parce que le couple est un lieu dans lequel s'exerce une forme de relation qui n'existe nulle part ailleurs. Il y a une intimité. Cette intimité, elle est réservée au mari et à la femme, à l'homme et à la femme qui sont mariés, qui sont passés sous la roupa, et lorsque la femme n'est pas nida. Il y a également une intimité qui est une intimité psychologique, qui est une intimité de communication dans laquelle l'homme et la femme arrivent à échanger des informations sur des choses extrêmement profondes et intimes. Il y a aussi, de manière plus générale, l'intimité du désir. Il y a dans notre désir des choses qui nous appartiennent en propre et qui sont très profondément inscrites dans notre personnalité. Eh bien, cet ensemble-là, dans son versus Maïm, l'eau, eh bien, il a une incidence sur notre relation à la possession. D'ailleurs, ça n'est pas un hasard parce que, au niveau psychologique, Maïm, l'eau, gère également la capacité à donner, la capacité au chesed, au partage, au don, ou au contraire, la jalousie, l'égoïsme, la rétraction, et finalement, l'incapacité à supporter que l'autre puisse avoir. Alors, il y a une erreur que font très souvent, malheureusement aussi beaucoup de rabbins, c'est que lorsque les couples viennent les voir, et je l'ai déjà entendu, beaucoup disent, bon écoutez, racontez-moi directement ce qui se passe dans votre intimité, comme si c'était la clé de tout. Bon, ça, il n'y a pas de mots assez sévères pour condamner cette attitude, et quand vous parlez à des gens comme le professeur Ami Chaquette, par exemple, qui est un professeur dont je suis la formation dans un organisme qui s'appelle Yanar, Yanar s'appelle Yoatse Nisuim Rabbanim, c'est les conseillers conjugaux rabbiniques. C'est un monsieur qui a traité plus de 4500 couples dans sa vie. Si vous écoutez Rav Simcha Cohen, qui est le rave de référence de cette formation, bref, si vous écoutez des gens qui sont des spécialistes et qui ont vu plusieurs milliers de couples, ils vous diront tous la même chose. Il faut être mamash, comme on dit, choté ou marti et arabim. Il faut être soi-même un fauteur et faire fauter le public pour croire qu'on puisse aller directement s'intéresser à l'intimité ou que l'intimité est la clé de tout. Ça ne veut rien dire. L'intimité, elle est l'expression d'une affectivité. L'affectivité, elle est l'expression d'une capacité à être ensemble. Et le être ensemble, il est l'expression d'une capacité à partager. Et partager, c'est l'expression d'une capacité à donner. Et la capacité à donner, elle est l'expression d'une capacité à se projeter dans la tête de l'autre pour essayer de comprendre ce dont il a besoin, d'en sortir de son précaré. Donc on va dire qu'il faut examiner toute une série de domaines de l'existence avant d'en arriver à ça. Ça peut prendre, dans une thérapie du couple, une bonne quinzaine de rencontres. L'intimité, elle est l'expression de l'ensemble. Elle exprime ce qu'est la relation entre le mari et la femme. Ce qu'est, finalement, la relation de chacun des deux conjoints avec leur champ pulsionnel. Elle exprime ce que chacun est finalement capable de gérer, ou au contraire, n'est pas capable de gérer, mais d'une manière générale. Voilà ce qu'exprime l'intimité. Et nos sages nous disent, il y a un lien profond entre le champ pulsionnel et la richesse. Alors ça, je vous dis comme ça, le znout, la débauche, ça amène à la pauvreté. Ça ne veut pas dire que tous les pauvres sont des débauchés, et ça ne veut pas dire que tous les débauchés seront pauvres. Mais si quelqu'un veut trouver une foi, une raison à sa pauvreté ou à ses difficultés de parnassa, ses difficultés de subsistance, il peut aussi aller les chercher dans la manière dont il gère son champ pulsionnel. Et pour vous dire à quel point ça n'a pas trait directement à l'intimité, mais à autre chose, vous regardez par exemple les premiers commentaires du Shulchan Aruch, Or HaChaim. C'est la première partie du Shulchan Aruch, c'est celle qui gère la vie quotidienne. Et là-bas, il est indiqué qu'on doit en permanence penser que Dieu nous regarde et qu'il est là et qu'il intervient dans notre existence. Et dans les commentaires qui sont rapportés, notamment dans le Biur Halakha, dans le Mishnah Berurah a été écrit par le Chafetz Chaim, Rav Israël Meir Kagan à Cohen, il y a son commentaire et puis il y a le commentaire de son commentaire qu'il a écrit dans lequel il développe un petit peu certains points qui s'appelle le Biur Halakha. Il dit là-bas que le znout, la débauche, ça commence dans le fait de satisfaire ses pulsions et ses envies pour le simple plaisir de satisfaire ses pulsions et ses envies. C'est-à-dire que nos sages nous disent que le champ pulsionnel, c'est quelque chose qui est tout à fait fondamental chez l'individu. Les pulsions, elles expriment des besoins, elles expriment des tendances, elles expriment un désir. Mais ce désir et ces pulsions, elles doivent être emmenées vers un but constructif, vers un but épanouissant. Et donc nos sages nous disent que le znout, c'est un mot qui est très intéressant parce que znout, ça vient du mot zan. Zan, c'est-à-dire se nourrir. Il y a des gens qui se nourrissent. Quand on mange, est-ce qu'on nourrit notre corps ou est-ce qu'on se nourrit? Lorsque l'on profite d'un beau paysage, lorsque l'on profite d'un bon instant, est-ce qu'on se nourrit ou alors est-ce qu'on nourrit quelque chose? Et là, c'est tout à fait fondamental. Le français le dit très bien. Qu'est-ce que vous nourrissez comme espoir quand vous mangez, quand vous jouissez de la vie? Qu'est-ce que vous nourrissez comme espoir? Bien, nos sages nous disent qu'il y a un lien tout à fait fondamental entre ce que l'individu donc, va expérimenter dans son champ pulsionnel. Je m'excuse, je suis obligé de bouger cela. Ce que l'individu donc, va expérimenter dans son champ pulsionnel et la manière dont il va vivre. Je m'excuse, je suis obligé de regarder cet engin pour être bien certain que le son marche. C'est les contraintes techniques. Vous voyez, on est toujours tenu par les contraintes de l'environnement. C'est très important de savoir qu'il y a un environnement et l'accepter, pas commencer à se battre avec son environnement. On l'a dit dans le cours sur la belle famille, les gens se battent avec leur environnement. Il faut accepter son environnement, il y a des contraintes. On va faire la parenthèse. Nos sages nous disent que pour grandir, un individu doit être capable d'épanouir la totalité de ses forces. Alors par exemple, lorsque vous invitez des gens à déjeuner, c'est évident que vous n'allez pas leur jeter la nourriture à table. Vous allez faire une très belle table parce que les gens mangent aussi avec leurs yeux. Vous allez leur faire passer un bon moment. Vous allez veiller à ce que la conversation soit une conversation agréable. Puis évidemment, vous allez servir des belles choses dans des belles assiettes et vous allez leur faire passer un bon moment aussi du point de vue culinaire. C'est-à-dire que quand vous passez un bon moment, qu'est-ce que vous faites? Vous essayez d'organiser toute une série de tendances autour de cet événement qui sont des tendances qui devront trouver leur satisfaction. On mange avec les yeux. On passe un bon moment agréable qui nous permet de digérer ce que l'on mange tranquillement. Et puis on va manger des bonnes choses. Et puis on va pouvoir sortir de table aussi avec un sentiment de satiété, un bon sentiment de contentement. On gère plusieurs choses dans la vie. Et donc, nos sages nous disent, un individu qui n'est que dans la satisfaction de ses pulsions, c'est un individu qui ne peut pas être riche. Il ne peut rien lui arriver de bon. Parce que c'est quelqu'un qui ne saura jamais profiter de la totalité de ce dont il doit profiter dans le monde. Hachem, lui, ce qu'il veut, c'est qu'on ait du oneg. Le but ultime de la création, c'est que l'homme vive un grand oneg. Oneg, c'est délice. L'homme doit vivre des délices. La femme doit vivre des délices. L'être humain doit vivre un délice. Et le délice absolu, dans le monde futur, la rencontre de l'âme avec la vérité absolue, avec l'être divin. Mais avant ça, dans le monde, il y a la rencontre de l'individu avec la totalité de ses forces, de ses pulsions et de ses tendances. Et c'est la raison pour laquelle on doit se marier, c'est la raison pour laquelle on doit avoir une vie intime, et c'est la raison pour laquelle on doit avoir des enfants. C'est qu'en fait, au travers de chacune de nos actions, nous épanouissons une multitude de forces. Si vous en voulez une illustration, regardez ce que Bilam, le prophète Bilam, le méchant Bilam, borne, qui voulait maudire le peuple juif, un homme qui, lui, n'avait pas compris grand-chose à ce que je suis en train d'expliquer, et qui était un homme qui vivait avec son ânesse. Eh bien, cet homme, à un moment donné, va dire, « Mais Moné Mispar Rova Israël, Dieu y compte !» Les nombres de fois où du liquide séminal s'écoule dans les relations intimes. Il y a un verset qui dit ça dans la paracha de Bilam. Dieu y compte le nombre de fois où un liquide séminal s'écoule dans la relation entre l'homme et la femme. Et nous, on sait, parce que c'est marqué dans la Gemara, que l'intimité, c'est vrai qu'elle permet d'avoir des enfants, elle permet l'épanouissement, c'est ce qu'on est en train de traiter là maintenant, on va y revenir, mais elle permet également, nous disent nos sages, du point de vue mystique, l'arrivée du Mashiach, l'arrivée du Messie, le dévoilement messianique. C'est-à-dire qu'il y a un lien profond entre cette activité intime et des formes de vie que nous ne connaissons pas, qui ne sont pas des êtres humains qui vont naître de ce rapport, qui ne sont pas des êtres que nous pouvons palper, mais il y a des formes de vie spirituelles que nous ne connaissons pas, mais qui existent et qui vont petit à petit s'incarner au travers de cette activité et qui vont participer au dévoilement messianique. Pourquoi est-ce que je prends le temps de vous raconter cela? Pour vous expliquer que pour nos sages, ce n'est pas seulement l'individu qui est concerné, c'est le monde entier qui est concerné par, finalement, ce qu'il fait. Il y a une incidence de nos actes sur le monde. La mystique juive même dit sur les mondes. Ce qui veut dire qu'il y a un ensemble de forces qui sont convoquées dans un certain nombre d'actes. Mais cet acte-là, il est tellement fort, cette pulsion, elle est tellement forte qu'il faut essayer de s'interroger sur le fait de savoir pourquoi elle est si forte que cela. Eh bien, c'est tout simplement parce que c'est la seule force capable de donner la vie. On peut donner la vie avec une parole encourageante, on redonne la vie à quelqu'un qui est triste avec des paroles d'encouragement, avec des bénédictions, avec de l'amitié, c'est vrai. On peut redonner de la vie à un pauvre qui est complètement perdu en lui redonnant de l'argent, c'est vrai. Mais est-ce qu'on peut créer, créer de la vie, transformer des cellules pour arriver à produire de la vie? Eh bien, l'intimité, c'est ce qu'elle permet. Ce qui signifie qu'elle recèle un potentiel de vie qui est tellement fondamental, parce qu'elle permet de faire venir au monde des êtres dans lesquels Hachem va mettre une âme et qui vont dans le monde produire un certain nombre de choses, c'est la première mitzvah de la Torah. Avoir des enfants. Essayer d'avoir des enfants. Et donc ça nous donne une idée de l'importance de cette chose-là. Mais ça nous dit quoi également? Ça nous dit qu'il y a dans ce champ-là, il y a quelque chose qui touche aux forces également les plus profondes, les plus vives de l'individu. Pas les plus profondes, mais les plus vives. Les forces les plus vives, ce sont des forces de survie en société. Pour vivre en société, il faut pouvoir acheter, il faut pouvoir dépenser. Toute l'activité humaine est basée sur cette capacité à dépenser ou la capacité à encaisser. C'est fondamental. Ça n'est pas seulement que de parler, ça n'est pas seulement que de rire ou de communiquer. Est-ce qu'on est capable, oui ou non, de vivre sur le plan économique? Et c'est la raison pour laquelle il y a un lien profond entre cette partie-là du champ pulsionnel et d'une manière le champ pulsionnel, comment on mange, comment on boit, comment on profite du monde, et finalement les moyens qui sont mis à notre disposition. Et c'est la raison pour laquelle dans les couples dans lesquels il n'y a pas beaucoup de respect, effectivement, il peut, dans les moments de crise, assez souvent, eh bien, c'est des moments dans lesquels il n'y a plus de parnassa. Et que des couples qui finalement veulent améliorer leur parnassa, leur subsistance, sont des couples qui peuvent s'interroger sur le respect qu'ils se manifestent l'un à l'autre. Et s'il y a des domaines dans lesquels on peut se manifester du respect, c'est évidemment la manière dont on se parle. C'est évidemment ce qu'on pense de l'autre. C'est effectivement la manière dont on traite l'autre. Est-ce qu'on lui fait des cadeaux? Est-ce qu'on a des attentions pour lui? Est-ce qu'on fait attention à ce qu'il est, à ce qu'il devient? Mais c'est également l'intimité. Et c'est la raison pour laquelle il y a autour de l'intimité, dans le cercle qui est juste autour de l'intimité, il y a, d'après nos sages, la subsistance. Et c'est la raison pour laquelle un couple qui, effectivement, aura des difficultés de parnassa, de subsistance, est un couple qui devra aussi, dans les moments de crise, et c'est inévitable, devra s'interroger aussi sur le respect qu'il se manifeste. Il y a un lien profond entre ce respect et cet argent. Il faut aller un petit peu plus loin. Nos sages nous disent que la source à partir de laquelle l'individu, du point de vue mystique, peut étudier la Torah, c'est-à-dire dans son sechel, dans son intelligence, dans sa chorma, dans sa sagesse, cette source-là, cette source, c'est la même que celle qui lui permet d'avoir une intimité. C'est celle qui lui permet d'avoir du désir. C'est celle qui lui permet d'être dans la réalisation de ses désirs et de ses envies. Pourquoi? Parce que étudier la Torah, c'est faire un avec la connaissance. Vous savez que la connaissance est extraordinaire. On a demandé au roi Salomon, qu'est-ce que tu préfères? La connaissance, la richesse, le pouvoir? Il a dit, moi je veux la connaissance. Pourquoi? Parce qu'avec la connaissance, j'ai tout. Avec la sagesse, j'ai tout. Avoir la sagesse, c'est faire un avec l'intérieur de chaque chose. Un homme sage, c'est quelqu'un qui comprend l'intérieur des choses, qui comprend l'intérieur des événements. La sagesse, c'est faire un avec l'origine de chaque chose. C'est ça l'intelligence. Eh bien, ce qui touche à l'intimité, c'est également de faire un de manière absolue avec le conjoint. Alken yazov ishetavi vetimo. Un homme va abandonner son père et sa mère. Vedavak beishto. Il va s'unir à sa femme. Vayul et basarechad. Et ils vont faire un. Dans l'intimité du désir, il y a ce désir de faire un. Pourquoi? Parce que ce désir est un désir qui vient de l'âme. L'âme, c'est une création divine. C'est un bout d'infini divin que nous avons en nous. Et lorsque l'âme n'était que l'âme, elle n'était pas dans un corps, elle faisait un avec le Créateur et avec le monde de la vérité. Et lorsque nous voulons faire un, eh bien nous avons le choix. Nous pouvons au contraire aller faire la satisfaction de nos pulsions et faire un avec notre pulsion, ou alors nous pouvons faire un avec l'intimité du désir qui est lié à cette pulsion. Nous pouvons faire un avec cette idée que d'abord nous faisons un sur le plan spirituel. Et c'est la raison pour laquelle la relation entre l'homme et la femme, pour qu'elle soit une relation de respect, une relation authentique, est d'abord une relation dans laquelle on fait un dans un projet. On fait un parce qu'on se parle, parce qu'on communique, parce qu'on partage des moments ensemble, parce qu'on est solidaire quand ça va mal, et parce qu'on se bat ensemble quand ça va mal, et parce qu'on est accrochés l'un à l'autre pour avancer dans la vie, pour construire notre famille. Et avec ça, on va créer petit à petit une fusion sur le plan psychologique mental. On devient un sur le plan psychologique mental. Et donc, on éprouve ce besoin de s'unir. Mais à partir du moment où l'homme et la femme sont divisés, séparés, éloignés, peut-être même dans un état de pré-séparation, dans un état de détestation, quel est le sens de cette intimité? Quel est le sens de l'intimité du désir? Qu'est-ce qui s'exprime à ce moment-là dans le couple? C'est un désir de séparation. Or, nos sages nous disent « En kli marzik bracha ela shalom » le keli, l'ustensile qui permet de réceptionner la bracha, la bénédiction, eh bien, c'est le shalom, c'est la shlemut, c'est la perfection. C'est-à-dire la capacité pour le mari et la femme à satisfaire tous ces compartiments de leur personnalité, le spirituel, le psychique et le mental, et donc à pouvoir fusionner. Mais sinon, qu'est-ce que leur intimité peut exprimer? Qu'est-ce que leur couple peut exprimer? Qu'est-ce que leur vie peut exprimer? Et c'est donc la raison pour laquelle va venir se mêler, comme en quelque sorte une espèce d'alarme, une très grosse difficulté d'argent, très souvent. On voit que quand les couples sont au bord du divorce, ils ont aussi très souvent des très gros problèmes d'argent. On voit très souvent que les divorces viennent après ou pendant des faillites. On voit qu'il y a souvent une concomitance entre des problèmes de couple et des problèmes d'argent qui sont souvent catastrophiques. L'expérience montre que ça concerne une très très grande partie des couples. Ça ne veut pas dire que tous les pauvres sont des gens débauchés ou qui ont des problèmes de couple. Ça ne veut pas dire que tous les riches n'ont pas de problèmes de couple. Mais ça veut dire que très souvent, lorsque l'expérience nous montre que lorsqu'un couple va mal, eh bien, il doit aussi chercher la raison de ce mal-être dans le respect que les conjoints se manifestent dans tous les compartiments de leur existence. Et donc, ils doivent aussi, lorsqu'il y a des problèmes de Parnassa, essayer de se poser la question s'ils ne peuvent pas renforcer, on va le dire positivement, renforcer le respect, la communion d'esprit, et donc forcément la communication qu'il y a entre eux d'une manière générale, et donc le respect qu'ils peuvent se donner chacun l'un l'autre. Pourquoi parle-t-on de respect dans cette communication? Parce que communiquer, ça n'est pas échanger des informations, c'est être capable de prendre en compte l'autre, de comprendre ce qu'il est, de vivre avec la réalité de l'autre. Donc c'est que je ne communique pas pour dire mon point de vue, je communique parce que j'ai envie d'entendre ce que l'autre est. Je pose des questions, je joue le journaliste, je pose des questions, j'interviewe, je veux savoir ce que l'autre est, je veux savoir ce dont il a besoin, je veux savoir ce qu'il traverse, je veux m'associer à ses éventuelles douleurs ou à ses problèmes. Et donc, on voit au travers de cela qu'il y a un lien très très profond entre ce respect et ce kavod, et ce kavod, et donc cet appétit d'être ensemble dans le respect, dans le désir de se connaître, dans le désir de partager, de construire ensemble, et la capacité du couple à se gérer sur le plan économique. Alors, il y a un dernier point qu'il faut soulever pour aller plutôt maintenant vers un début de solution. On l'a dit, dans ce genre de cours, on ne va pas sur un pied solutionner donc des problèmes de couple. On ne peut aussi ici qu'inviter les gens à prendre contact avec nous et donc à suivre une thérapie du couple pour ceux pour lesquels ça ne va pas. Mais il y a un premier conseil qu'on peut donner au couple. Beaucoup de couples sont marqués par des positions de force, des rapports de force. Dans tous les couples, existe cette notion diffuse de rapport de force. Et très souvent, les grandes crises sont un moment de bascule dans un rapport de force. Il y a des moments dans lesquels il faut savoir admettre, pour le conjoint qui était peut-être plus en position de force, qu'à partir d'aujourd'hui, ce rapport de force est refusé. Et que, en fait, le conjoint décide finalement de reconstruire le rapport dans le mariage. Alors vous savez, nos sages, ils sont très souples là-dessus. Ils le disent en positif. Ils disent, pourquoi la femme, l'homme et la femme doivent se séparer plusieurs jours par mois quand la femme est nida? C'est pour que la femme, elle soit chère aux yeux de son mari comme au jour du mariage. Qu'est-ce qui est écrit ici? Il est écrit que, pour que les gens ne s'ennuient pas, il faut qu'ils respectent les lois de nida et qu'ils se séparent. Les psychologues américains, par exemple, ont, à une certaine époque, fait pratiquer les lois de nida, alors les lois de la séparation, à certains de leurs clients non-juifs. Bon, ça a marché un mois, deux mois, trois mois. Mais ça n'était pas une solution parce qu'il n'y avait pas la neshama, il n'y avait pas l'ordre divin là-dedans. C'est l'ordre divin qui fait toute la différence. Mais qu'est-ce qui est marqué ici, du point de vue cette fois-ci du fonctionnement, parce que c'est ça qui nous intéresse, nous, c'est le stage, c'est le fonctionnement. Ce qui est marqué ici, c'est qu'il faut de la nouveauté. C'est marqué ici qu'en fait, il y a toujours de la nouveauté. Ça veut dire que le couple, il est marqué par le fait qu'il y aura toujours de la nouveauté. Et bien, il y a un type de nouveauté qui est terrible dans les couples. C'est quand il y en a un qui décide de changer la forme du rapport et qui bouge d'un mètre. Et c'est la raison pour laquelle très souvent, quand les gens se disputent, on leur dit « bougez d'un mètre ». Ne restez pas toujours dans le même mode de communication, d'argumentation, le même mode de relation à l'autre. Bougez-vous un petit peu. Mais de manière plus dramatique parfois, il y a un des conjoints, notamment en général celui qui subit, qui à un moment dit « mais ça suffit ». Alors il le dit de plein de manières et il se déplace. Et donc il y a un nouveau rapport qui va s'organiser. Ben, il faut savoir que quand les couples vivent ce genre de situation, en règle générale, ce sont des occasions de grande crise. Donc de grandes remises en cause. Et donc ce sont des occasions de tension, de colère. Ce sont des occasions dans lesquelles se manifeste moins de respect. Et donc des problèmes, en règle générale, qui sont liés également à la parnassa, à la subsistance. En quelque sorte, ce sont des gros tremblements de terre dans la vie d'un couple. Il n'y a pas de couple qui ne passe pas des tremblements de terre de ce genre. Beaucoup de gens disent qu'il n'y a pas de couple qui ne passe pas une occasion de divorce. C'est faux. Moi, je connais plein de couples qui n'ont jamais pensé à divorcer, qui ont passé des crises, mais qui n'ont jamais pensé à se séparer. Mais par contre, un couple, c'est un immeuble qui est construit sur une zone sismique, donc ça va trembler. Maintenant, pour que l'immeuble ne s'effondre pas, il faut une certaine souplesse. Et quelle est la souplesse dont il faut avoir besoin dans ces périodes de crise-là? Dans ces périodes où, d'un coup, le lien se défait, et puis il y a moins de respect, et puis d'un seul coup, on a des problèmes d'argent, et puis d'un coup, on se rend compte que, finalement, ça ne marche pas comme on veut. Il faut, à ce moment-là, accepter le changement. Il faut que le mari ou la femme accepte ce changement. Il y a des mutations dans la vie des individus. Il y a un moment où les individus bougent dans leur existence. Toujours. Après quelques années de mariage, il y a un moment où les choses se redessinent. Il faut accepter ça. Il faut être capable, à ce moment-là, de prendre un petit peu de recul et d'accepter finalement que l'autre manifeste son droit à l'existence. Il manifeste son droit à l'existence. Il dit « moi, je veux exister. Moi, je change les cartes. » Et en général, dans les moments où on change les cartes, on change tout. Et comme on change tout, tout change. Et c'est la raison pour laquelle, dans cette période-là, eh bien, ce qui est de mise, c'est de réintroduire, encore une fois, on l'a dit dans d'autres cours, la base du Shulchan Aruch, qui est le respect. Le respect, dans ce cadre-là, ça veut dire une chose simple. C'est le droit de changer. C'est le droit au changement. Et donc, la capacité pour celui qui n'a pas forcément initié ce changement à accepter le changement et à accepter la nouvelle donne avec son conjoint. Si on est capable de ça, on peut complètement sauver une situation. Et très souvent, les gens débarquent avec cette plainte. On ne se respecte plus, on a des problèmes d'argent, ça ne fonctionne pas. Moi, vous savez, avec ces problèmes d'argent, ça peut être une cause de divorce, etc. etc. On entend ce genre de phrases, les gens sont choqués. Mais comment, si j'amène plus d'argent, alors ça y est, on ne veut plus de moi. En vérité, il y a autre chose qui est en train de se mettre en place. Alors, vous voyez, on l'a dit dans le cours, les gens vont faire l'erreur très souvent, et même certains rabbins font cette erreur, de dire « bon, alors racontez-moi votre intimité ». C'est une grave erreur. Il est sûr qu'il y aura des incidences sur l'intimité, mais ça n'est pas le problème. Le problème, c'est tout ce qui fait l'organisation de la relation entre le mari et la femme et tout ce qui, finalement, gère l'intimité de leur désir. C'est à la manière dont ils s'expriment dans leur champ pulsionnel. Et là, il y aura une incidence et le thérapeute va devoir s'intéresser aussi à la manière dont le mari et la femme se gèrent. Ça va peut-être supposer parfois dans la thérapie du couple que le mari et la femme se séparent et que chacun fasse son travail de son côté. On n'est pas toujours tenu de faire un travail ensemble. Parce que parfois, quand les gens viennent faire un travail ensemble, ils répètent le rapport de force dans la thérapie. Parfois, il faut se séparer. Que la femme donc, va aller voir une femme, le monsieur reste avec le thérapeute, ou si c'est une thérapeute, la femme reste avec la thérapeute, le monsieur va voir un thérapeute, et ils vont, chacun de leur côté, essayer de faire un peu le point sur eux-mêmes. Voilà ce qu'on peut donner comme bout de conseil et comme explication sur ce fonctionnement. À très bientôt.